Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Thomas Soto, bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Ce n'est pas le moment de desserrer la bride. Jean Castex a donné le ton avant d'entamer sa conférence de presse dans quelques minutes. Il va faire le point sur l'épidémie, sur le confinement et sur ce qui nous attend pour la suite. A priori, restons prudents, on n'attend pas de mesures fracassantes. On va rester confinés et pour la réouverture des magasins, il faudra attendre le 1er décembre au plus tôt. Évidemment, on va suivre ces annonces ministérielles dans les minutes qui viennent. On en parlera aussi avec l'ancien ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, qui sera avec nous à 18h15. Et on en débattra dans Le Monde tel qu'il est. Ça, ce sera à partir de 19h. On n'en est pas là. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Quels sont, s'il vous plaît, les autres grands titres de l'actualité de ce jeudi 12 novembre?
À la une ce soir, ces derniers espoirs qui s'envolent pour les 863 salariés de l'usine Bridgestone de Béthune. Leur site va finalement bien fermer. Dans ce journal également, le documentaire qui fait polémique, Hold Up, 2h40 pour dénoncer un complot mondial autour du Covid, du délire, disent ce soir certains responsables de la majorité, vous les entendrez. Et puis les premiers mots d'un jeune bleu au lendemain du match raté de l'équipe de France. RTL a rencontré Marcus Thuram.
Qui lui n'a pas raté son match.
Ah oui, il a plutôt brillé. Les courses, le Quintet Plus se courait aujourd'hui à Vincennes, il fallait jouer le 7, le 11, le 8, le 2 et le 15.
La météo, bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Thomas.
Demain, c'était bien le soleil aujourd'hui, mais on oublie. En tout cas, dans le Nord, on oublie.
C'est clair, dans le Nord, on oublie parce que demain, on a une nouvelle perturbation qui va concerner un quart nord-ouest le matin. Elle va progresser vers l'est dans la journée. Le ciel sera bien couvert, mais il y aura peu de pluie. La façade est restera à l'écart avec beaucoup de grisailles le matin, quelques trouées l'après-midi. Et sur la moitié sud, il fera beau. Alors certes, avec un ciel voilé sur le sud-ouest le matin, mais ça va se dégager. Seul bémol, sur le pourtour méditerranéen, on aura des entrées maritimes. Donc un ciel bien nuageux et quelques gouttes possibles. Tout ça sous des températures qui resteront douces, de 14 à Metz à 21 à Biarritz.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Et on garde un œil bien sûr sur l'avenue de Ségur où Jean Castex doit prendre la parole dans les toutes prochaines minutes. Mais d'abord direction Béthune et l'usine Bridgestone installée là-bas va finalement bien fermer ses portes. Le géant du pneumatique l'a confirmé aujourd'hui. Franck Hanson, vous êtes sur place pour RTL. Le coup est rude pour les 863 salariés de ce site.
Oui, c'est une nouvelle claque après la première annonce de fermeture. Bridgestone, cette fois, ferme définitivement la porte en méprisant ses salariés, déplore ses délégués à la sortie de la réunion.
Il n'y avait plus d'issue pour Bridgestone, voilà. Depuis le début, c'est fait de façon brutale. Et aujourd'hui, ça a été encore refait en 5 minutes de temps. La messe était dite. Bridgestone, c'est fini. Voilà.
Un projet d'investissement était pourtant à l'étude pour une reprise d'activité pneumatique avec les trois quarts du personnel rejeté par le groupe japonais. Il faut donc poursuivre le combat, selon maître Stéphane Ducrot, l'avocat des salariés.
Il y avait des solutions, ça tenait la route. Et aujourd'hui, Bridgestone, ils ont balayé ce projet, ils l'ont rejeté. Donc maintenant, l'heure est pour nous au combat sur les mesures sociales. Et on obtiendra, j'en suis sûr, le maximum pour chacun des salariés.
Le gouvernement et les élus locaux s'engagent à tout faire pour réindustrialiser ce site de Béthune. Éric Brass, en poste depuis 25 ans ici, reste prudent.
Il ne faut pas faire rêver les gens non plus, hein. Il faut être du concret. Des vrais projets industriels, je pense qu'il va y avoir. Et puis justement, de l'accompagnement.
Maintenant, il ne reste plus que ça, avoir confiance un peu. J'espère qu'on aura un petit cadeau de Noël pour les salariés et tout. On verra bien.
Pour l'instant, l'activité se poursuit au ralenti. Si on veut espérer un repreneur, confie un des ouvriers, il faut rester exemplaire.
Et autre réaction ce soir, celle de Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France.
Le bras de fer continue parce qu'il faut que Bridgestone arrête de jouer la montre et arrête de jouer avec les nerfs des salariés. Ils ont confirmé qu'ils ne voulaient pas eux-mêmes investir, mais maintenant, ils ne vont pas partir comme ça. Ils vont pas partir comme ça parce qu'on est en France. On jette pas les salariés comme des Kleenex. Et donc aujourd'hui, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils mettent le maximum pour que les salariés puissent individuellement rebondir et pour que ce territoire puisse rebondir. Ça sera plus marqué Bridgestone à l'entrée de l'entreprise. Mais il faut qu'il y ait des salariés à l'intérieur.
Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, au micro de Franck Hanson. On en vient, Amandine, à la crise sanitaire et a priori, on le disait, sauf coup de théâtre, pas d'allègement à attendre ce soir du côté du confinement.
Ce n'est pas le moment de desserrer la bride, a dit dès ce matin le Premier ministre. Alors, cette stratégie est-elle la bonne? Peut-on vraiment espérer une réelle amélioration d'ici 15 jours et la nouvelle date butoir qui pourrait être fixée ce soir par le gouvernement? Nous avons choisi d'aller voir ce qui se passe en Irlande, un pays qui applique à peu près les mêmes règles que nous, mais depuis plus longtemps, Maxime Fleury.
Oui, souvenez-vous, les Irlandais étaient les premiers à se reconfiner en Europe le 21 octobre, soit une dizaine de jours avant la France. Le premier ministre du pays, Micheál Martin, imposait alors ce qu'il appelait les mesures les plus strictes du continent. Fermeture des commerces non essentiels, télétravail et limitation des déplacements, mais tout en conservant les écoles ouvertes. Trois semaines plus tard, il semblerait bien que la stratégie commence à payer. En Irlande, le taux d'incidence, soit le nombre de tests positifs pour 100 000 habitants, a chuté de plus de 50% au cours des deux dernières semaines. C'est une amélioration significative et une trajectoire positive selon les autorités sanitaires, qui rappellent qu'il ne faut pas baisser la garde, alors qu'une quarantaine de malades sont toujours en soins intensifs et que plus de 2000 Irlandais sont décédés du virus depuis le début de la pandémie. Un lourd tribut pour ce petit pays d'à peine 5 millions d'habitants. Le Premier ministre l'a pourtant promis, ses concitoyens pourront célébrer Noël correctement s'ils maintiennent leurs efforts pendant 6 semaines.
Maxime Fleury à Dublin pour RTL. Lui est une figure de cette pandémie. Didier Raoult sera bien jugé par ses pairs. Le Conseil de l'Ordre des médecins l'a confirmé aujourd'hui. Le médecin marseillais, ô combien contesté, va devoir répondre de pas moins de 9 chefs d'accusation. Bonsoir Agathe Landais.
Bonsoir.
Parmi eux, le charlatanisme.
Oui, et le charlatanisme, c'est interdit par le code de déontologie médicale. C'est le fait de, je cite, « proposer aux malades un remède illusoire ou insuffisamment éprouvé ». Et c'est bien ce qui est reproché à Didier Raoult, d'avoir prescrit de l'hydroxychloroquine sans l'aval des autorités de santé et sans études sérieuses sur lesquelles s'appuyer. L'Ordre des médecins reproche aussi aux microbiologistes d'avoir exposé ses patients à des risques injustifiés, d'avoir délivré des informations erronées au public ou encore d'avoir calomnié ses confrères, par exemple quand il avait accusé des médecins parisiens de laisser mourir leurs patients. Son avocat, Maître Divizio, a réagi sur RTL.
Une tranche marginale de la profession médicale qui souhaite régler des comptes avec le professeur Raoult, c'est tout. L'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône a cédé à la politique, j'ai envie de dire, de la terreur, mais c'est pas grave. Et dans cette histoire, moi, je n'ai aucune inquiétude sur ce qui va se passer.
L'avocat de Didier Raoult est persuadé que son client sera relaxé, mais la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins peut aussi le sanctionner. Un simple avertissement, un blâme, l'interdiction temporaire d'exercer la médecine ou enfin la radiation.
Agathe Landais, merci beaucoup. On va évidemment en parler dans un instant avec Philippe Douste-Blazy. On parlera aussi, Amandine, de ce documentaire qui, depuis quelques heures, fait beaucoup, beaucoup parler de lui.
Un film intitulé Hold Up, entièrement financé par Cagnotte en ligne. Jacques Seret, vous avez vu ce documentaire. De quoi s'agit-il ?
C'est un film de 2h45, très mis en scène, avec de la musique dramatique. On peut y entendre les témoignages de scientifiques, de médecins français et étrangers, un panel d'intervenants riches, mais le discours est toujours le même, relativiser l'épidémie. Le coronavirus n'est pas grave, le masque ne sert à rien. Au final, Hold Up instille l'idée que les dirigeants politiques et les scientifiques seraient de mèche, voire corrompus au seul bénéfice des industries pharmaceutiques. Pour les députés En Marche, Coralie Dubost et Mounir Majoubi, ce documentaire est tout simplement complotiste.
Il y a des faux liens logiques qui sont créés, qui relèvent de la nature de la théorie du complot et se présentant comme un documentaire. Et c'est bien tout l'aspect qui est gênant.
Les extraits, vous allez les voir circuler. Ça va arriver dans vos familles, ça va arriver auprès de vos amis. Et ces gens-là vont vous dire « Mais regarde, c'est la vérité. Il faut être capable de répondre. »
Pourtant, une ex-députée En Marche, Martine Vonner, intervient dans ce film. Elle n'y trouve rien à redire et assume complètement.
Dès que quelqu'un s'écarte d'une forme de pensée unique, il est taxé de complotisme. Alors je ne sais pas, il y a un moment où je me dis que c'est presque une qualité.
Un débat qui va au-delà de la sphère politique. L'actrice Sophie Marceau a fait la promotion du film sur son compte Instagram.
Reportage de Jacques Seret. Un décès sur quatre est dû au virus, c'est ce qu'annonce à l'instant le Premier ministre Jean Castex. On va revenir évidemment sur sa conférence de presse dans les minutes qui viennent. Là, on marque une pause et on entendra les premiers mots de Marcus Thuram. C'est le petit nouveau de l'équipe de France, mais il est comme le petit Pimousse, hein. Petit, mais costaud.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
18h10, la suite du journal avec vous, Amandine Bégaud. Et l'anesthésiste poursuivi pour avoir pratiqué un accouchement ivre a été condamné.
3 ans de prison ferme, 1 400 000 euros de dommages et intérêts et surtout l'interdiction définitive d'exercer la médecine. Un soulagement pour les proches de la jeune patiente qui n'a, on le rappelle, pas survécu, pour son compagnon notamment, Denis Grangeau.
Oui, Yannick Balthazar, le compagnon de Xintia, regrettait que Helga Vauteur, l'anesthésiste, ne soit pas venue au tribunal.
Évidemment. Ça, bon, les raisons, on ne sait pas pourquoi. Ça peut être dû à la situation sanitaire. Mais si c'est dû à d'autres raisons qui peuvent refléter son attitude lors du procès, je trouve ça encore un peu petit de sa part et... Si c'est ça, en tout cas, c'est encore irrespectueux.
Juste après l'audience, il a téléphoné aux parents de Xintia qui résident en Angleterre.
Je suis là pour eux et pour les représenter. Je sais que j'ai tout leur amour de leur part pour me soutenir, en tout cas. Ils vont être soulagés de la sentence. Soulagés qu'elle ne soit plus médecin. Ouais. Ça va être un soulagement. C'est un soulagement pour moi et ça va être un soulagement pour eux.
Rien n'a filtré sur la décision d'Elga Voteur sur un appel éventuel, mais il paraît peu probable de sources proches du dossier. En tous les cas, la famille de Xintia espère que ce qui s'est passé aujourd'hui dans le tribunal de Pau scelle la fin d'un combat judiciaire démarré il y a 6 ans.
Denis Grandjeau au tribunal correctionnel de Pau pour RTL. Le groupe État islamique revendique ce soir l'attentat d'hier en Arabie Saoudite, une attaque menée dans le cimetière non musulman de Jeddah, alors que le consul de France achevait son discours. 2 personnes, on le rappelle, ont été blessées.
On en vient au foot, au lendemain d'un match bien, bien raté de l'équipe de France. Parole au petit nouveau ce soir.
Oui, un petit nouveau qui d'ailleurs s'en est pas si mal sorti hier. Ce petit nouveau, c'est Marcus Thuram. Bonsoir Philippe Sanfourche.
Bonsoir.
Vous l'avez rencontré tout à l'heure pour M6 et RTL, c'est la première fois qu'on l'entend depuis qu'il a intégré les Bleus.
Et oui, au lendemain de sa première sélection, alors encore un peu intimidé, tout en retenue, mais ému d'avoir porté ce maillot bleu 14 ans après le dernier de son illustre père.
Oui, c'était beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments partagés à l'entrée pendant les hymnes nationaux. Tout le monde m'a encouragé avant le match, m'a félicité pour ma première sélection et m'a mis à l'aise pour que je m'exprime au mieux sur le terrain.
Alors tout le monde, mais en particulier Lilian, petit coup de fil du papa aux 142 sélections avant la première du fiston.
Oui, mais comme il le fait avant chaque match, même en club, il m'a rappelé que c'était une chance de pouvoir évoluer dans cette équipe et de prendre énormément de plaisir.
Marcus Thuram, qui n'a pas pensé à demander dans quelle chambre dormait son père à l'époque à Clairefontaine, il est arrivé un peu sur la pointe des pieds, mais pour s'imposer.
C'est un rêve de tout jeune Français de jouer pour son équipe nationale. Et hier, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'espère que ça va continuer.
Alors, pourquoi pas dès samedi au Portugal, par exemple, si Kylian Mbappé n'est pas apte. En tout cas, il l'assure, il postule.
Il a l'air tout sage, en tout cas, aussi. Merci beaucoup, Philippe.
Bien élevé. J'ai bien senti qu'il vous intriguait depuis.
Non, mais il a l'air tout sage. Bon, ouais, bien élevé, vous dites. C'est... Pourquoi pas. C'est vrai. Bon, le prochain match, c'est face au Portugal.
Elle rame,
on
la
rappelle.
Peau.
Samedi. Allez, laissez-moi toute seule. Petit clin d'œil ce soir. Aussi au dessinateur Piem, dont on a appris le décès tout à l'heure, Pierre-Georges-Marie de Barrigue de Montvallon, c'était son vrai nom. Pendant des années, il avait croqué l'actualité avec malice, à la télé, d'abord dans Le Petit Rapporteur, et puis dans La Lorgnette. Écoutez.
Alors, dans ce monde fou, il y a des sages. Et ces sages, savez-vous ce qu'ils font, ces sages? Ils se penchent sur le trou de la sécu.
Chaque semaine, il faisait sa revue de presse en dessin. C'était tous les dimanches. Ça date de 1977. Piem avec 97 ans. C'était d'ailleurs aujourd'hui son anniversaire.
Eh ben, merci beaucoup, Amandine. Merci à vous. On vous retrouve tout à l'heure. Il serait irresponsable d'alléger le confinement maintenant. C'est ce que vient de dire Jean Castex, qui poursuit sa conférence de presse. Le pic du mois d'avril en nombre d'hospitalisations a été dépassé. Preuve une nouvelle fois que cette deuxième vague d'épidémie est extrêmement violente. On y revient tout à l'heure. Dans un instant, on en parle notamment avec Philippe Douste-Blazy, qui, par ailleurs, crée la polémique en apparaissant dans ce documentaire clairement complotiste dont vous parliez, Amandine, et qui s'appelle Hold Up.
RTL Soir.